Chers auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue au forum de Studio Kalangu. Vous suivez nos programmes sur les ondes de nos 52 radios et 7 télévisions partenaires présentes dans les 8 régions du Niger. Consommation de drogue par les jeunes à Niamey, comment y remédier est le thème de l'émission de ce soir. La production, le trafic et l'abus de drogue et de substances illicites posent des problèmes de santé publique, de développement et de sécurité à tous les pays du monde. C'est ce qui ressort du rapport mondial sur la consommation de la drogue publié en juin 2022 par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime ONU-DC à Niamey, la capitale du Niger. Plusieurs saisies de drogue de diverses natures sont faites chaque année dans la ville de Niamey et dans les quartiers périphériques en particulier, où des cas de délinquance juvénile qui seraient en lien avec la consommation de psychotropes ont été signalé par les populations. Pourquoi cette récurrence de la consommation de la drogue à Niamey? Quelle est la situation de la consommation de la drogue dans la ville de Niamey? Quelles sont les conséquences de ce phénomène et comment y remédier? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le commissaire de police Hamidou Amadou Insa. Il est le représentant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCTRIS. Monsieur Saleh Ganda, il est le président de l'ONG de lutte contre la drogue, ADENA, et Hamadou Bagna Ibrahim, sociologue, en ligne au téléphone avec nous. Bonsoir, chers invités.
Bonsoir.
Et bienvenue à la modération du forum de ce soir. Je suis Michel Deji. Au Niger, ces dernières années, le trafic et la consommation de la drogue constituent un phénomène préoccupant car représentant un réel danger pour la population et la jeunesse en particulier. Commissaire de police Hamidou Amadou Insa, d'abord, que signifie une drogue?
Donc, merci. Comme vous l'avez dit, je suis le commissaire de police Hamidou Amadou Insa. Je suis le chef de la division formation communication au niveau de l'OCTRIS. Donc, comme vous l'avez dit, une drogue, c'est une substance synthétique ou naturelle qui agit sur le système nerveux central. Et la sensation peut varier en fonction de la drogue consommée. Il y a des drogues qui ralentissent le fonctionnement du cerveau, du corps en général. Il y a des drogues qui en tout cas, accélèrent le fonctionnement du corps. Et il y a des drogues qui agissent en tant que antidépresseurs. Ça, c'est de la catégorie des médicaments. Parce que même parmi les drogues, il y a des médicaments, mais qui sont livrés sous forme de prescription médicale. Donc, c'est ça, on classe les antidépresseurs là.
Oui, c'est vrai que certains produits pharmaceutiques contiennent de la drogue. Mais quelles sont les drogues les plus consommées au Niger?
En tout cas, d'après nos statistiques et d'après le constat que nous avons fait même nous-mêmes sur le terrain, et les drogues les plus consommées sont par exemple le cannabis, la cocaïne, le crack, qui est un dérivé de la cocaïne. Nous avons aussi le tramadol.
Merci beaucoup.
Merci.
Monsieur Saleh Ganda, président de l'ONG de lutte contre la drogue au Niger, l'ONG ADENA. Selon vous, qu'est-ce qui pousse à la consommation de cette drogue?
Merci beaucoup, Studio Kalangu, pour aborder un peu ce qu'a dit le commissaire. Moi, je pense que, moi, en tant que membre d'une organisation de la société civile qui lutte contre la drogue, j'ai été formé grâce à la police. J'ai fait une formation des formateurs avec des porteurs de tenue et pour acquérir une certaine connaissance en matière, en tout cas, de la drogue. Maintenant, pour dire qu'est-ce qui pousse les jeunes à consommer la drogue, vraiment, ça, c'est vraiment une question pertinente. Nous avons mené des activités de sensibilisation dans tous les milieux, surtout les milieux jeunes, au niveau des scolaires et au niveau des centres de jeunes. Parce qu'au niveau de Niamey, il y a plus d'une dizaine de centres de jeunes où les jeunes s'assoient comme ça pour discuter. Et en tout cas, à travers leur dire, parce que c'est ce qu'ils disent, on pense que souvent, c'est le manque d'emploi. C'est ce qu'ils disent. C'est le manque d'emploi, c'est le chômage. Et d'autres aussi, c'est l'extrême pauvreté. Mais quand on est pauvre aussi, on ne peut pas avoir accès à une certaine catégorie de drogue. Et là aussi, c'est à vérifier, hein, c'est à vérifier. Mais ce qui est frappant, c'est au niveau des scolaires, en milieu scolaire. Là, je pense que c'est là le danger. C'est une question de milieu, c'est une question de fréquentation des enfants. C'est une fois que vous êtes avec quelqu'un qui est en train de fumer la cigarette, et de la cigarette, il va à l'herbe de cannabis qu'on appelle le chanvre indien. Je pense que c'est là que les gens, par imitation, ils se plongent dans la consommation de la drogue en milieu jeune. Ça, c'est en milieu jeune. Maintenant, au niveau des adultes, certains qui exercent des travaux difficiles, comme on le pense, par exemple, ceux qui sont dans les gares, qui transportent des bagages au niveau des abattoirs, bah, c'est des travaux difficiles que les gens font, qui les poussent souvent à consommer ces drogues. Mais je pense que quand on travaille, je pense qu'on n'a pas besoin quand même de se faire accompagner de la drogue pour fournir un résultat. Et au niveau rural aussi, il y a aussi ceux qui font les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les champs, les travaux champêtres. Au cours de pendant la saison, il y a beaucoup de cultivateurs qui consomment la drogue pour dire qu'ils peuvent faire un bon travail sous l'effet de la drogue. Ça, c'est un. De deux, aussi, ceux qui sont les éleveurs. Parce que c'est ça qui amène souvent des conflits agriculteurs-éleveurs. Quand le éleveur prend la drogue, qu'est-ce qu'il fait? Il dort sous les arbres. Maintenant, il abandonne les animaux. Ces animaux-là vont dans les champs et le cultivateur qui est sous l'effet de la drogue, voilà, c'est ça qui amène des conflits jusqu'à perte de
vie humaine parfois.
Voilà, la perte de vie humaine. Donc là, il faut catégoriser. Et ce qui est plus dangereux maintenant, ce que nous avons observé sur le terrain, c'est les jeunes filles qui s'adonnent à la consommation de la drogue, telle que l'a dit le commissaire, le crack. Ils ont une appellation qu'on appelle Chali ou Baka. Et une fois que tu touches à ça, c'est fini. Tu es plongé, tu ne peux pas t'en passer. C'est pourquoi...
Ça crée de l'addiction.
De l'addiction. On dit, il y a une fille voleuse. Mais elle est obligée parce qu'elle a touché à la drogue. Il lui faut, coûte que coûte, avoir de quoi à payer cette drogue. C'est ce qui fait que vous allez voir, au niveau de leur famille, ces jeunes filles-là vendent tout. Les portables, leurs propres portables, les portables de leur maman, de leur père. Ensuite, maintenant, il faut se jeter dans le vol pour pouvoir se procurer de la drogue.
Merci beaucoup. Monsieur Hamadou Bagna Ibrahim, que nous avons en ligne au téléphone, comment expliquer cette récurrence de la consommation de la drogue, notamment ici à Niamey?
Merci à Kalangou. Vous savez que nous sommes une société avec une éducation qui est reçue d'abord en milieu familial, parce qu'on considère que le premier environnement protecteur de l'enfant, c'est sa famille, ce sont ses parents biologiques, élargi à ses parents sociaux. Son deuxième milieu protecteur, c'est l'environnement, son environnement social, et son troisième milieu, si c'est quelqu'un, un enfant qui va à l'école, son troisième milieu protecteur ne peut être que l'école. Et les raisons qui sont en train d'encourager cette pratique, l'une des toutes premières raisons, elle est vraiment sociale, parce que nous sommes en perte de repères. Avant, l'enfant, il appartient à toute la société. Quand il dévie, quand il commet un acte déviant, il est rappelé à l'ordre par l'aîné. Il est rappelé à l'ordre par celui qui est de la même classe d'âge que son papa ou sa maman, même en dehors du milieu familial. Aujourd'hui, nous les parents, nous sommes en train de démissionner de l'éducation des enfants parce que nous accordons plus de priorité à nos activités professionnelles qu'à nos progénitures. Si nous nous mettons nous-mêmes en dépassage avec nos valeurs sociales, avec nos normes sociales, il va de soi que nos enfants soient des enfants avec une marge de manœuvre pour faire ce qu'ils veulent. Ils deviennent dès lors des enfants avec la plénitude de leur liberté. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, un enfant qui est un enfant, on sait que c'est un être en évolution. Donc, il est vulnérable, il est malléable à merci. Il peut facilement être entraîné par un autre enfant, surtout quand il fréquente une mauvaise compagnie.
Mmh.
Vous voyez? Donc, toutes ces raisons que je viens de vous donner font que les enfants aujourd'hui sont en train de se lancer dans la consommation abusive de la drogue. Et ce qui est très inquiétant aujourd'hui, ce sont les jeunes scolaires, filles et garçons, qui vendent même la drogue à l'intérieur des établissements. Il va falloir que nous ayons en tant que parents un œil regardant sur l'éducation des enfants et que nous fassions de l'éducation de ces enfants une priorité. Parce qu'il y a des parents qui pensent que quand leur enfant va à l'école, c'est à l'enseignant de s'occuper de cet enfant. Alors que l'enseignant, il encadre beaucoup d'enfants, donc il ne peut pas des fois rapporter directement, hein, il ne peut pas rapporter ce que fait l'enfant de grave, parce que l'enfant peut développer de mauvais comportements.
Ça veut dire qu'il ne peut pas maîtriser la situation de chaque enfant.
Il revient à la maison, il se fait passer pour un enfant sérieux. Donc, la question de l'éducation de nos enfants nous revient donc d'abord en tant que parents biologiques, puis en tant que parents sociaux, et peut-être en tant qu'éducateur ou encadreur des enfants en milieu scolaire.
Merci beaucoup. On vous a bien compris. Il y a donc un problème d'éducation et on l'a rappelé en amont selon le rapport mondial 2022 sur la consommation de la drogue publié en juin dernier par l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime en Afrique de l'Ouest et du Centre. 9,7% de la population âgée de 15 à 64 ans a consommé du cannabis en 2020 et 2,4% des opioïdes pharmaceutiques à des fins non médicales. Commissaire de police Amadou Insa, il a parlé par exemple des cas de consommation de drogue au niveau des établissements scolaires, publics et privés. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réalité?
Ça, c'est vraiment une réalité parce qu'il y a des enseignants ou bien des chefs d'établissement, en tout cas avec qui nous avons des contacts, qui peuvent nous appeler pour dire voilà, devant notre établissement, il y a en tout cas la vente de la drogue par des élèves et même des individus qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment une réalité. Et il suffit de se rendre ici dans le quartier d'Arsalam, à côté de l'école Algoza, pour faire ce constat-là. Ça ne fait pas longtemps dans le cadre de l'IA, nous avons en tout cas positionné nos éléments là-bas. Et vous allez constater qu'il y a des véhicules de luxe insolents qui viennent chercher cette drogue. Maintenant, quand ils constatent la présence des éléments, ils rebouchent chemin. Et parmi ces catégories, effectivement, il y a des élèves. Il y a des élèves, ils font semblant, en tout cas, de venir passer, alors que c'est la drogue qu'ils sont venus chercher. Et on a compris, certains
sont... Et ils les consomment où?
Ils les consomment souvent dans les établissements. Souvent, c'est même en pleine rue, ils consomment ça. Ça, c'est une réalité.
Est-ce qu'il y a eu des arrestations par rapport à ça?
Maintes fois, nous avons l'habitude de prendre des élèves, en tout cas des scolaires.
Merci beaucoup, M. Saleh Ganda, président de l'ONG de lutte contre la drogue ADENA. Comment expliquer cette situation des jeunes qui, au lieu d'étudier, sont incités à une consommation de la drogue?
Merci beaucoup. Je veux rappeler d'abord le commissaire Insa, ils ont fait un excellent travail dans les établissements. Peut-être qu'il ne l'a pas souligné. Donc, ils ont passé d'abord, l'OCTIS a passé dans les établissements pour des activités de sensibilisation à l'endroit de ces élèves-là et enseignants. D'abord, c'est après les sensibilisations que maintenant, il y a eu de ces arrestations-là. Et nous sommes en train de vouloir les emboîter les pas. Parce que nous, notre rôle en tant que société civile, nous, c'est la prévention. Tout ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser le corps enseignant et les élèves sur le danger lié au trafic et à la consommation de la drogue. Comme il a dit, c'est dans les établissements. Vous allez voir même, c'est des élèves même qui sont dealers. Je ne sais pas si vous avez vu un passage dans les réseaux sociaux où ils ont sorti la batterie du portable pour mettre de la drogue dedans pour vendre. Et c'est pourquoi souvent, quand la police demande de déguerpir les tabliers qui sont autour des établissements, les gens voient ça très mal. Or, c'est pas ça. Pendant les récréations, c'est en ce moment que ces jeunes enfants prennent la drogue. Quand un seul a un joint, 5, 6, ils vont fumer le même joint. voyez comment ça se passe dans les établissements.
Il y a un effet d'imitation.
Tout à fait. C'est pour ça que nous, on va rentrer d'abord dans la prévention, ce que les mesures que nous voulons engager. Mmh. Nous avons pris contact avec la direction régionale de l'éducation pour accompagner l'école, pour faire des sensibilisations dans les établissements. Nous allons commencer par 20 établissements d'abord, parce qu'on a travaillé avec la direction, le point focal de la direction régionale de l'éducation. On prend 4 établissements par arrondissement communal, où nous allons d'abord faire, on va faire cet exercice, voir comment ça marche. Sinon, d'habitude, on a fait une cinquantaine d'établissements. Et c'est là où vous allez comprendre que chaque drogue, chaque milieu a une appellation de la drogue. Quand vous prenez le cannabis, qu'on appelle le chanvre indien, le chanvre indien a au moins une centaine de noms.
Il y a un mot de passe au niveau des écoles pour qu'on ne comprenne pas que c'est une drogue.
Voilà. Parce que dès qu'on vient, écoutez, même ce n'est pas la police, parce que même maintenant, la police fait notre rôle, parce que c'est la police qui sensibilise d'abord. Il faut sensibiliser, c'est au moment où la sensibilisation ne passe pas, qu'il faut passer à la répression. Ils sont en train de faire des sensibilisations, comme nous. Maintenant, pendant les sensibilisations, dès qu'on vient, on rassemble les filles et garçons, vous allez voir, comme nous, voilà, on voit Interbon, vous soyez, voilà, vos gens sont là. Et chaque école, chaque établissement, chaque quartier, chaque milieu, il y a une appellation de ces différentes catégories de drogue-là. C'est ça le problème. Ce n'est pas uniquement au niveau des établissements, mais même dans la rue, surtout au niveau des enfants talibés aussi. Et vous avez vu comment les enfants de la rue sont. Donc je permets au commissaire qui est
entré. Une petite précision.
Quand
vous avez parlé de statistiques, je peux dire, en tout cas, en ce qui concerne notre jeunesse, plus de 80%, en termes de pourcentage, en tout cas, plus de 80% de cette jeunesse-là est concernée par la consommation de la drogue.
Plus de 80%,
plus de 80%
des jeunes.
Des jeunes. Et donc, dans cette assiette-là, il y a 3% des femmes. 3% des femmes.
C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas uniquement Niamey. Nous sommes partis à Maradi, où on nous a sollicité. Il y a 17 CS là-bas. Et il y a le service de l'éducation santé scolaire qui voulait faire des activités de sensibilisation dans ces établissements. Mais ils disent, ils craignent leur vie parce que pour eux, le sujet de la drogue, c'est un sujet tabou. Moi, je me suis déplacé personnellement pour aller à Maradi. On a discuté avec la direction régionale, en collaboration avec les techniciens de la police, c'est-à-dire les experts, et les experts de santé mentale, pour faire une activité. On a combiné nos efforts pour faire des activités de sensibilisation dans les 17 CSE que compose la ville de Maradi. Et ça, c'est ce que nous allons faire aussi. Malheureusement, c'est les fonds qui font défaut. C'est pas maintenant, quand on parle de drogue, on pense que seulement c'est vendre la drogue, avoir le... Non, il faut vraiment sauver des vies. C'est une question de santé maintenant. C'est une question de santé publique, la question de la drogue.
Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. On l'a compris d'ailleurs, le commissaire qui représente l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCTRIS, M. Hamidou Amadou Insa, a expliqué que par rapport aux interpellations au niveau de l'OCTRIS, donc environ 80% de ces interpellations par rapport au trafic et à la consommation de la drogue constituent des jeunes avec un pourcentage de 3% de genre féminin. M. Amadou Bagna Ibrahim, sociologue, parmi les causes de la consommation de la drogue, on parle également du chômage et de la pauvreté. Que faut-il comprendre à ce niveau?
Effectivement, vous savez, un chef de ménage, ou plus simplement un père de famille qui n'a pas les moyens de prendre en charge sa famille, peut les laisser à eux, c'est-à-dire qu'il peut laisser ses enfants à eux, parce qu'il n'arrive pas à les prendre en charge. Les enfants sont du coup abandonnés, donc c'est à eux de gagner le pain quotidien. Donc un enfant qui se trouve être dans cette situation devient également vulnérable et il est susceptible de faire n'importe quel genre de commerce pourvu qu'il arrive à s'en sortir. Vous voyez, un jeune qui n'a pas de fonction, qui n'a pas de profession, qui n'a pas de revenus, il peut aussi facilement être enrôlé dans la vente et la consommation de la drogue. Parce que pour lui, peut-être, c'est une manière facile de gagner de l'argent. Donc ça, ce sont des réalités indéniables. Ce sont des raisons qui tiennent la route. Entre autres raisons que j'ai soulignées tout à l'heure.
Merci beaucoup. Nous entamons la deuxième et dernière partie de ce forum du studio Kalangu ayant pour thème consommation de drogue et délinquance juvénile à Niamey, comment y remédier. Partie dans laquelle nous parlerons de ce phénomène et des solutions pour y remédier. Mais d'abord, pour mieux comprendre comment la drogue agit sur son consommateur, je vous propose de suivre les explications du professeur Douma Maiga Jubo. Il est psychiatre et enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Des propos recueillis par le studio Kalangu.
Toutes les drogues entraînent une ivresse. Et l'ivresse, ça peut déboucher au coma, ça peut déboucher aux accidents de la voie publique ou déboucher à la délinquance. Ça, c'est en ce qui concerne les consommations occasionnelles. Donc, il y a toujours un risque à prendre la drogue, même si c'est une fois. Après ça, il y a les usagers réguliers. L'usage régulier se voit chez les personnes qui deviennent dépendantes ou l'accoutumance, qui est déjà une complication de la consommation de la drogue. C'est le phénomène de tolérance qui se définit comme cette tendance à prendre de plus en plus des quantités de drogue plus importantes. C'est-à-dire que la personne qui prend une certaine quantité Q pour avoir une ivresse I va devoir prendre quelques jours après une quantité Q multipliée par 2 pour avoir la même ivresse I. Ça veut dire que l'organisme tolère de plus en plus des grandes quantités de drogue. Les drogues étant en général des substances toxiques, plus on en prend, plus on augmente la toxicité dans le corps et donc les conséquences vont être sur la santé physique. Deuxième élément de la dépendance, c'est le syndrome de sevrage. À quoi consiste le syndrome de sevrage? C'est quand la personne est dépendante de la drogue, quand elle ne prend pas la drogue, elle est malade. Donc on se retrouve dans une situation qui est la suivante. Une personne dépendante pourrait se définir comme une personne qui, quand elle prend la drogue, elle est malade. Quand elle n'en prend pas, elle est malade. Et en ce moment, cette dépendance va être déclinée en plusieurs conséquences. Et donc la drogue peut entraîner toutes les sortes de maladies psychiatriques qui existent. La première et la plus fréquente que tous les usagers de drogue connaissent, c'est la paranoïa. C'est cette tendance à penser que l'entourage est un entourage persécuteur. Les drogués pensent que tout le monde leur en veut. Donc ça témoigne d'une déformation du fonctionnement du cerveau. Ça peut entraîner la schizophrénie, ça peut entraîner la dépression, enfin toutes les sortes de maladies mentales. Sur le plan physique, les conséquences vont être en fonction du type de la substance. Quand vous prenez par exemple l'alcool, vous allez avoir des conséquences sur le foie, vous allez avoir des conséquences sur la régulation du sucre, vous allez avoir des conséquences sur le système nerveux. Quand vous prenez le cannabis, vous allez aussi avoir des conséquences sur le fonctionnement du système nerveux. Vous allez avoir les états psychotiques aigus. Vous allez avoir des maladies psychiatriques qui sont plus graves, telles que la schizophrénie, qui nécessitent souvent des traitements psychiatriques lourds.
Commissaire de police Hamidou Amadou Hinsa, quelle analyse vous suscite cet éclairage du professeur Douma Maiga Jubo, psychiatre et enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Abdou Moumouni sur les conséquences de la consommation de la drogue?
C'est vrai. Il a parlé du côté sanitaire. Donc ça a vraiment des conséquences sur la santé.
Les conséquences au niveau de la santé physique et mentale
mental.
Également.
Et si on regarde la plupart des fous là, qui vadrouillent dans la rue, en tout cas, si on fait une analyse, on va se rendre compte que c'est sous l'effet
de
la drogue. Pour en venir sur le plan social, il faut dire que ça peut être en tout cas l'objet d'un échec de la société. Parce que quelqu'un qui consomme la drogue,
il peut échouer à l'école.
Il peut être marginalisé socialement. Parce que dès qu'on le voit déjà, on dit que c'est un tel, c'est un consommateur de drogue. Donc il n'a plus l'honneur. Donc les gens peuvent le marginaliser. Ça c'est un. De deux, il peut être poursuivi sur le plan pénal à travers le ministère public. Il peut être poursuivi. On peut le condamner. Et une fois condamné, dans le futur, il peut être amené, peut-être si c'est quelqu'un qui a un niveau ou de diplôme, il peut être amené à chercher un emploi. Et dès là, vous savez, dans nos fichiers, On dit que le fichier de la police, là, c'est comme si c'est la mémoire d'un éléphant.
Ça reste...
Si tu vas aller chercher du boulot, maintenant, une fois les enquêtes de moralité finies, dès qu'on va au niveau du fichier, on trouve que tu es impliqué dans une affaire de drogue. En tout cas, ta candidature sera écartée. Vous voyez?
C'est vrai, il y a des enquêtes comme ça. La consommation de la drogue n'a pas que des conséquences sanitaires.
Ouais.
Il y a également des conséquences sociales et économiques. Et parmi les conséquences sociales, il y a justement cette délinquance. Mais quels sont les différents types de délits, voire crimes, que commettent habituellement les drogués? Parce que la consommation même est une infraction, mais il y a aussi la délinquance qui s'ensuit. C'est-à-dire que le drogué pose des actes réprimés par la loi.
Merci beaucoup de la question. C'est une question vraiment pertinente. Je crois que quelqu'un qui consomme de la drogue, déjà, on dit que l'effet de la drogue, ça agit sur le système nerveux central. Et souvent, ça amène le gars à perdre le contrôle. Souvent, il ne sait même pas dans quel environnement il se trouve. Donc, celui-là peut vraiment être amené à poser plusieurs infractions. En tout cas, il n'y a pas une infraction dont il n'est pas capable de commettre. Au pire des cas, il peut tuer.
Là, ça devient un crime.
C'est un crime. Et la majorité des cas, quand vous regardez, au niveau de la PJ, de la direction de la police judiciaire, il y a ceux qui prennent la drogue pour commettre leur forfait, et pour avoir le courage même de le commettre, intercepter les gens sur la voie, et prendre de leur bien, ou dire que celui qui consomme la drogue est capable de commettre n'importe quelle infraction.
Ah oui. Même le tramadol, c'est pareil, puisque avant les gens prenaient le tramadol pour se traiter quand ils ont mal à...
Même maintenant, le tramadol est pris dans le cadre de traitement, mais il faut que ça soit livré par un médecin et à une quantité bien limitée. Vous savez, le tramadol...
Quand vous prenez donc la personne en train de consommer le tramadol sans ordonnance, ça veut dire qu'on l'arrête,
c'est ça? C'est ça la toxicomanie. Quand vous prenez un produit à des fins non médicales, vous tombez dans cela. Pour vous dire que le tramadol était classé drogue ici au Niger,
c'est
classé.
Du Niger,
oui, c'est classé drogue.
Années.
C'est classé drogue. C'est classé, et c'est classé au tableau numéro 2 par un arrêté. Vous voyez? Donc, si on vous trouve en tout cas avec une quantité de tramadol sans raison valable, vraiment, on peut vous prendre. Ne serait-ce que des petites plaquettes, on peut vous prendre.
Et il y a des pays où le tramadol ne constitue pas ou n'est pas classé parmi les drogues.
Oui, c'est pas classé. Mais merci de la question, parce que c'est ça le problème même, le danger même de la coopération. Vous allez voir, nous, chez nous, le tramadol est réprimé. Et ailleurs, par exemple, au Burkina, le tramadol n'est pas considéré comme une drogue, mais un produit peut-être de qualité inférieure ou bien falsifié. Du coup, et quand vous demandez la coopération, moi, je me rappelle dans une affaire, quelqu'un qui avait en tout cas transité par le Burkina avec une assez importante quantité de tramadol.
Ça dit pour eux, ce n'est pas une drogue.
Pour eux, ce n'est
pas
une drogue.
Et quand ils arrivent au Niger, l'État les arrête, ils sont étonnés.
Chaque État a sa législation. Chez nous, c'est réprimé. Nous sommes un État souverain.
L'État ne demande pas l'avis des autres.
Peut-être ce qu'on peut demander, c'est la coopération. La coopération. Ici, chez eux, si ce n'est pas réprimé, c'est là où se pose le problème. Peut-être ils peuvent être amenés à ne pas coopérer. Et comme je l'avais dit là, dans une affaire, il y avait une drogue qui avait quitté le Ghana, qui avait transité par le Burkina. Donc on suivait en tout cas ce trafic-là à travers nos moyens. Maintenant, quand c'est arrivé au Burkina, en tout cas, on n'a pas eu la collaboration de ces autorités au niveau du Burkina. Tout ce qu'on a fait simplement, c'est de suivre à travers nos moyens de recherche, en tout cas, l'itinéraire de cette drogue. Et Dieu merci, on a pu mettre la main sur les 103 cartons de tramadol dissimulés dans des véhicules de transport de bois de chauffe ici au quartier d'Arslan. C'est grâce à notre pouvoir. Mais sinon, d'un point de vue coopération, en tout cas les autorités burkinabées ont refusé de coopérer parce que chez eux, ce n'est pas réprimé en tant que drogue.
Au Burkina, ce n'est pas une drogue.
C'est pas une
drogue.
Au
Niger même, il y a un peu plus de 10 ans, ce n'était pas une drogue.
Il faut comprendre.
Merci beaucoup. Mais généralement, les drogues qu'on voit à Niamey, elles proviennent de quel pays?
Et quand vous prenez le cannabis, vous savez, nous faisons frontière avec toute la bande sud du Niger, la fait frontière avec le Nigeria. Et au Nigeria, il existe des champs, en tout cas des cultures de cannabis. Et c'est un excellent, en tout cas, pays qui nous fait rentrer entre la drogue.
Avec une très longue frontière.
Exactement, au Niger. Surtout qu'avec la porosité de nos frontières, il y a aussi beaucoup de voies secondaires donc, qui ne sont pas contrôlées. Et généralement, ces trafiquants choisissent ces voies qui ne sont pas contrôlées pour introduire la drogue. Ça, c'est concernant le cannabis. Il en est aussi de même pour la méthamphétamine, qui est une drogue de synthèse fabriquée dans des laboratoires. Aujourd'hui, au Niger, si vous dénombrez, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de laboratoires clandestins de fabrication de ces de cristal meth là. Vous voyez. Maintenant pour la cocaïne, vous savez, la cocaïne obéit à des conditions climatiques pour être en tout cas cultivée. Donc ces conditions là, on a vu que c'est au niveau de l'Amérique du Sud que c'est possible. Donc c'est cultivé là-bas, mais comme je l'avais dit, ça rentre par les différents ports et les nouveaux véhicules, les véhicules de transport acheminent ça ici au Niger. Maintenant, concernant le tramadol, le premier pays producteur, vous savez, c'est l'Inde et la Chine pour le tramadol. Là.
Ouais.
Il y a le tramadol qui nous vient de l'Inde et il y a le tramadol qui nous vient aussi de la Chine. Donc, pour ces cas-là, en tout cas, ce sont les deux pays à risque qui introduisent en tout cas ces produits-là au Niger.
Merci beaucoup. Il faut préciser ici que quand vous faites les interpellations, la personne va chez le juge qui décide de son sort, c'est ça? Donc c'est la justice qui applique la loi. Monsieur Ganda Saleh, président de l'ONG de lutte contre la drogue ADENA, peut-on réussir à vaincre ce fléau que constitue la consommation de la drogue?
Oui, et c'est possible. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs intervenant dans la lutte contre la drogue. Il faut l'application stricte de nos textes que nous sommes librement donnés.
Qui réprime déjà la consommation.
Parce que là, et je vais en venir sur une des questions que vous avez posées au commissaire. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, tout à l'heure, vous avez parlé des trafiquants et autres. Maintenant, il y a l'ordonnance 99-42, du 24 novembre 1999, 23 septembre 1999, où les moyens de transport, c'est-à-dire les moyens de transport, quel qu'en soit le moyen de transport, si c'est dans un avion, si c'est un bateau, si ce sont les bus, si ce sont les véhicules de transport de bois et les bâtiments dans lesquels on les cache, tout ça, on doit saisir ça pour mettre à la disposition de ceux qui sont chargés de la lutte contre la drogue. Là, c'est possible. Maintenant, il y a eu combien de saisies au Niger? Plusieurs saisies. Et souvent, ce sont même les conducteurs qui cachent cette drogue. C'est-à-dire qu'eux, ils savent.
C'est mais ce que dit selon la loi. Vous, qu'est-ce qui pousse à ce trafic? Bien
mais maintenant, si une fois...
Ça représente un danger et il arrive même qu'on trouve des personnes...
Maintenant, dans des bus de transport, dans des citernes, dans des gros camions, mais on arrête, on prend la drogue, saisissez ces véhicules, conformément à notre loi, vendez ces véhicules aux enchères publiques devant tout le monde et vous mettez les fonds à la disposition de la police pour continuer à lutter contre la drogue. Je pense que demain, quelqu'un ne va pas récidiver.
Dans tous les cas, le juge peut appliquer des amendes.
C'est ça. Mais non, c'est ce qui dit le texte. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans l'ordonnance.
Ah bon, c'est déjà prévu dans l'ordonnance.
C'est déjà prévu dans la loi. Parce que chaque fois, nous, on demande l'application de cette loi-là. Si c'est une ordonnance, si on applique ça, vraiment, et eux-mêmes, ils seront à l'aise. Parce qu'il n'y aura pas vraiment ce trafic de comme les gens le font.
Mais qu'est-ce qui fait que les gens font ce trafic parce que de cette manière?
Ils font ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui cachent derrière. Tu payes une petite drogue à 1 million, tu vends ça à 40, 50 millions. Mais si on prend le véhicule, tout est bien. On vend, on donne à la police pour continuer la lutte. Je pense que ça va en tout cas réduire. Ça, c'est le côté de la répression. En ce qui nous concerne, nous, acteurs de la société, nous, c'est de faire la sensibilisation. C'est comme un marabout. Quand il fait ses prêches, maintenant, c'est à vous de voir, de juger, voir est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai. Nous, on prévient. Dire voilà les dangers liés à la consommation. Voilà ce que ça peut faire sur l'aspect d'abord santé, mais l'aspect économique et l'aspect social. Tout ça, là. Et nous, on va faire comprendre vraiment au grand public, voilà ce que les conséquences de cette consommation. Mais le plus gros du travail, c'est la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui doit faire appliquer cette loi. Il y a des choses que nous ne voulons pas dire sur le plateau, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Des gens qu'on arrête avec les moyens, souvent pour des questions politiques, on demande de les relâcher. Voilà, on a beaucoup d'exemples.
C'est vrai, très souvent, c'est des affaires de justice parce que le conducteur du véhicule peut ne pas être au courant.
Une fois, il y a trois camions. C'est moi-même qui avait le coordinateur du centre. J'ai dit, attention, tes camions sont sur l'île. J'ai dit, non, les camions sont actuellement au port de Lomé. Où les arrachés sont partis chercher d'autres marchandises pour venir au déjà. Quand quelqu'un cache, tu prends, c'est-à-dire le petit colis là, on te dit, bon, voilà un colis, mais on te dit d'abord ce qu'il y a dedans. Et voilà. Toi qui prends un chargement, peut-être 1 million, 500 000 pour venir au Niger, et on te donne 2 millions ou 3 millions pour un petit colis, tu penses que c'est gratuit?
Voilà, donc c'est à la justice d'en juger.
C'est à la justice.
Merci.
Maintenant, toutes les questions délicates se jouent au niveau de la justice. C'est la justice qui doit faire un bon jugement et mettre tout le monde au même pied d'égalité. Pour des questions pratiques.
Voilà, merci beaucoup, on vous a bien compris. Vous demandez donc l'application de la loi dans toute sa rigueur, c'est-à-dire appliquer les peines de prison prévues par les textes en vigueur, mais également les autres dispositions telles que la saisie des moyens de transport et autres. Monsieur Hamadou Bagna Jibo, sociologue, à votre niveau, quelle piste de solution préconisez-vous pour arriver à vaincre ce fléau?
Vous savez... Le mal, il faut l'attaquer à la racine. L'État doit renforcer les services de sécurité sur les frontières. Bien que les frontières soient poreuses, bien qu'on ait des routes secondaires à travers lesquelles les trafiquants passent pour faire entrer la drogue, un grand effort doit être mis à ce niveau-là pour empêcher l'entrée de la drogue au Niger. Parce que nous, au Niger, on n'a pas un climat favorable à la culture de la drogue.
À la production. Donc, il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières. Est-ce qu'il y a autre chose, puisque il ne nous reste qu'une poignée de minutes?
Autre chose, c'est la communication pour une transformation sociale positive. C'est-à-dire, il faut mener une communication à l'endroit des parents biologiques, à l'endroit des parents sociaux. Vous qui êtes les journalistes,
les médias.
Le monde médiatique, il faut passer par le monde médiatique pour sensibiliser. Il faut passer pour les leaders communautaires, les leaders d'opinion. Nous avons chez nous des chefs traditionnels, entre parenthèses, chefs de canton, chefs de province, sultan, chefs de village, chefs de secteur. Tout ce beau monde-là doit être mis à contribution pour apporter ces changements.
C'est donc une affaire de tous.
C'est une affaire de tout le monde. Donc, pour parer à cet épineux problème, il va falloir que tout un chacun, en fonction de sa sphère de compétences, mette la main dans la pâte pour arriver au bout de ce fléau qui est en train de compromettre le devenir de notre pays. Parce qu'un enfant qui se lance dans la drogue, il devient un adulte raté. Et un adulte raté, quelle est sa contribution à la société? Il ne peut être que nuisible à la société. Il devient donc un perturbateur social. Il est isolé à raison de ses actes qu'il pose. Il est isolé, il est stigmatisé, il est marginalisé. Donc, il ne peut plus être utile à la société. Donc, il tire le développement vers le bas et il compromet le progrès économique et social de tout le pays. Donc, en un mot, c'est ce que je... Donc, il va falloir que tout le monde mette la main dans la pâte pour parer à cet épineux problème.
Nous l'avons compris, la consommation de la drogue fait donc reculer le développement socio-économique du pays. Ça engendre l'insécurité. À Niamey, par exemple, nous avons des délinquants un peu partout. Personne n'est à l'abri, on a l'impression. Commissaire Hamidou Amadou Insa, représentant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, avez-vous un appel dans ce sens, justement, pour terminer?
Oui, c'est une affaire de tout le monde. Comme il l'a dit, vraiment, nous avons besoin de la collaboration de la population. C'est-à-dire, nous avons besoin de cette collaboration. Nous avons besoin des renseignements. Souvent, il y a des choses qui se font, en tout cas, au sud.
Dans des quartiers périphériques, par exemple, il y en a qui disent que la police sait, par exemple, les endroits où il y a les délinquants, mais que la police ne part pas dans ces zones. Que répondez-vous?
Moi, je dirais que le gars n'est pas en train de nous suivre. Il n'y a pas un coin à Niamey où nos éléments ne mettent pas pied. Ça, je vous l'ai dit. Et il suffit de vous rendre peut-être dans nos services pour voir En tout cas, le travail qu'on est en train
même
de faire.
Les ravins
ou... Même les ravins vers Pays-Bas, là où on pense qu'on ne peut pas rentrer, nous on rentre là-bas et on prend les derniers cas là. Et rien qu'avant-hier, au moment de l'IA, un petit positionnement nous a permis de prendre plusieurs personnes avec des quantités plus ou moins importantes de drogue. En tout cas, c'est de temps à autre, nos éléments sortent sur le terrain, sur la base des renseignements en tout cas, obtenus. Pour filer, surveiller et prendre ces délinquants-là.
Vous appelez donc à plus de collaboration. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Aussi. Monsieur Saleh Ganda, votre mot pour terminer par rapport à cette grande problématique.
Que je dois lancer, c'est le droit d'abord de l'État qui doit renforcer vraiment la police dans le cadre de la lutte contre la drogue. Parce que là, il faut que ce centre-là soit de façon autonome pour pouvoir agir rapidement et efficacement. Ça, c'est un. Deux, l'affaire de la lutte contre la drogue, c'est pas une affaire de la police seulement, c'est une affaire de tout le monde. C'est pas une affaire des ONG, c'est une affaire de tous ceux qui ont des, en tout cas des jeunes ou des enfants à leur charge, en commençant par les parents, les enseignants. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène qui est en train de gangréner notre société et qui est en train de faire perdre des repères à notre jeunesse. Voilà, en tout cas, l'appel. Et nous, qui sommes des acteurs de la société civile, nous demandons aussi aux autres de se joindre à nous pour qu'on puisse faire le combat là ensemble. Même si on n'a pas de moyens, je pense que pour des sensibilisations, on n'a pas besoin de gros moyens pour faire des séances de sensibilisation. L'expertise est là, la connaissance est là, le milieu aussi on connaît. Pour faire les sensibilisations, je pense qu'on ne demande pas grand-chose. Merci beaucoup.
Merci, on vous a tous compris. Pour terminer, c'est donc un appel à une synergie d'action plus forte pour pouvoir endiguer ce fléau donc de consommation de la drogue dans la ville de Niamey, mais également de façon élargie sur l'ensemble du pays. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème consommation de la drogue à Niamey, comment y remédier. Nous retenons donc que la lutte contre la consommation de la drogue doit être une affaire de tous. Nos invités préconisent une application des textes en vigueur pour l'intérêt de tout le monde, car la consommation de la drogue constitue un véritable problème de société et engendre un recul grave pour le pays sur tous les plans. Du point de vue donc socio-économique, les jeunes qui consomment cette drogue représentent un danger pour toute la société. Nous disons merci à nos invités. C'était le commissaire de police Hamidou Amadou Insa, représentant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, Octrice Saleh Ganda, président de l'ONG de lutte contre la drogue au Niger, ADENA, et M. Hamadou Bagna Ibrahim, qui est sociologue à la modération du forum de ce soir. Je suis Michel Deji à la technique Issa Laoli. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis à travers les 52 radios partenaires du studio Kalangou, présentes dans toutes les 8 régions du Niger. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.